Donc, nous étudions depuis déjà quelques semaines l'Épître aux Romains. Plusieurs diront que l'Épître aux Romains, c'est une lettre qui est particulièrement difficile à comprendre dans certains passages. Hein. On doit admettre qu'il se trouve certains passages dans Romains qui sont plus ardus que même dans le reste du Nouveau Testament. Mais ça demeure très important. Et on est rendu au chapitre 7. Et déjà, même depuis le début de l'Épître, depuis le chapitre 1, on est dans une partie qui est vraiment doctrinale. C'est très théologique, ce qu'on étudie. Mais c'est très important. C'est le fondement de notre foi. Pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ces vérités. Pour d'autres, on les connaît déjà, ces vérités. C'est un bon rappel. Mais il faut continuer à déclarer fortement, jusqu'au retour du Seigneur, ce à quoi nous croyons. C'est ce qui nous identifie, les évangéliques. C'est vraiment la base de notre foi. Et même, c'est une question de vie ou de mort. C'est ce à quoi toute personne doit croire pour être sauvée, pour avoir la vie éternelle. C'est l'Évangile, finalement, c'est la bonne nouvelle. Et si on fait un petit rappel de ce qu'on a vu, dans le chapitre 1, vous vous souvenez du verset, c'est même le verset thème de notre Église à Rosemont. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, n'importe qui, du juif comme du grec. En fait, c'est pas pour rien que Paul commence par présenter l'Évangile. Même il dit qu'il a hâte de pouvoir se rendre lui-même à Rome parce qu'il n'a jamais visité encore cette assemblée. Et même il espère plus tard pouvoir continuer jusqu'en Espagne. Parce que cet Évangile-là, c'est ce qui doit être proclamé à toutes les nations. C'est la chose la plus importante qui soit. Et je crois que c'est le thème de tout l'Épître. Donc quand on garde ça en tête, que tout l'Épître de Romains parle du salut par la foi en Jésus. Donc d'abord, on y apprend comment être sauvé, ça veut dire quoi être sauvé, pourquoi on a besoin d'être sauvé. Puis ensuite, on voit qu'est-ce que ça change dans notre vie de tous les jours, dans l'Église, une partie plus pratique. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens ont besoin d'être sauvés? Et dès le chapitre 1, Paul le mentionne, parce que tous les hommes, même s'ils ne sont peut-être pas au courant, sont sous la colère de Dieu. Dieu est un Dieu qui est en colère contre l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Et il s'attend que ses créatures l'honorent, le servent, cherchent à faire sa volonté. Et c'est le contraire qui est arrivé. Tous les êtres humains sur la terre ont vécu comme si Dieu n'existait pas et ont été rebelles à Dieu. Donc, ils sont sous sa colère. Au chapitre 2, on voit que Paul souligne, il sait que parmi ceux qui lisent sa lettre, il y a des Juifs ou des craignants Dieu qui connaissent la loi. Et il leur dit: « Ne pensez pas que parce que vous connaissez la loi de l'Ancien Testament, que vous serez épargnés du jugement de Dieu. Que parce que vous connaissez l'Ancien Testament, la loi de Moïse, automatiquement, Dieu va tolérer tous vos péchés dans votre vie. » Non, parce que Dieu ne regarde pas seulement ceux qui connaissent la loi, mais il regarde à notre obéissance. Dieu apprécie pas seulement qu'on connaisse par cœur les vérités, mais qu'on les mette en application dans nos vies. Donc, connaître la loi de Dieu n'épargne pas du jugement. Au chapitre 3, il va même plus fort en disant que finalement, être juif, ça n'a aucun avantage pour ce qui est de la destinée éternelle. Ce n'est pas le fait d'être juif qui nous place automatiquement dans le camp de Dieu et que Dieu va dire: « Ah, tu es un juif, mais entre dans mon paradis, tu vas passer l'éternité sur la nouvelle terre que je te prépare. » Il n'y a pas d'avantage parce que, Paul le rappelle, tous ont péché. Et à cause de cela, ils sont privés de la gloire de Dieu, juifs comme païens. Le seul moyen d'être justifié, il le dit clairement, c'est par la foi en Jésus. Lorsqu'on croit en Jésus, Dieu change notre statut. On était des criminels à ses yeux, et lorsqu'on met notre foi en Jésus, on devient sauvé, justifié. Même Dieu nous voit, à partir de ce moment-là, comme des justes, comme des saints, des rachetés, membres de son peuple saint. Et il donne l'exemple, Paul, au chapitre 4, d'Abraham, le père de la nation juive, pour leur dire: souvenez-vous qu'Abraham n'a pas été sauvé, n'a pas été justifié parce qu'il obéissait à la loi. D'ailleurs, c'est bien avant que la loi soit donnée. Comment il a été sauvé? De la même manière que nous, par la foi. Il a cru dans les promesses de Dieu. Et finalement, Abraham est devenu le père spirituel de tous ceux qui croient, de tous ceux qui sont sauvés. Donc, il est notre père, Abraham. Au chapitre 5, Paul dit qu'il liste les bénéfices d'être sauvé par la foi. C'est d'abord d'être réconcilié avec Dieu. Nous ne sommes plus sous sa colère. Il n'y a plus d'inimitié. On n'est plus les ennemis de Dieu. On est vraiment dans son camp. Et on va le voir la semaine prochaine dans le chapitre 8, qu'on devient même ses enfants, membres de sa famille. On est des membres de sa maison. Donc, il n'y a aucun état qui serait plus intime que cela. C'est vraiment une réconciliation avec Dieu. Ensuite, il va dire que Paul va faire le parallèle. Avant cela, comme tous les hommes, nous étions identifiés à notre premier père terrestre, qui est Adam. Lorsque Adam a péché, Adam et Ève, en mangeant du fruit défendu, ils ont été condamnés parce que Dieu avait dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et ils sont devenus mortels ce jour-là. Mais pas seulement eux, tous leurs descendants aussi. Caïn et Abel, d'ailleurs Abel est le premier à avoir démontré cela sans le vouloir, qu'ils étaient mortels. Et tous ses descendants subissent cette même condamnation à cause de ce premier péché-là. Donc, le fait d'être identifié, d'être un membre de l'humanité, fait que nous sommes sous la condamnation de Dieu. Mais lorsqu'on croit en Jésus, il y a un changement d'identité. On appartient maintenant à Jésus qui est le premier membre de cette nouvelle création, de cette nouvelle humanité. Et on n'est plus, on va encore subir la mort terrestre, mais ce n'est que provisoire, c'est une étape à franchir parce que la mort éternelle s'est éloignée de nous. Dieu nous réserve une vie éternelle parce que nous sommes maintenant identifiés, associés, liés à Jésus par le Saint-Esprit. Et ça a un effet, pas seulement pour après la mort, pour l'éternité, mais ça a un effet dès maintenant. Au chapitre 6, Paul nous dit que lorsque Jésus est mort, il a été enseveli dans le tombeau, il est crucifié. Tous ceux qui allaient croire en lui sont comme morts avec lui. On est identifié à Jésus même dans sa mort, sa résurrection, ce qui fait en sorte que mon ancien Richard, qui appartenait au règne du péché de la mort, est mort. C'est comme un cadavre dans ce monde-là, dans ce règne-là. Maintenant, je vis dans un nouveau règne qui est le règne de la justice par Jésus. Donc, c'est vraiment un changement qui a un effet dès maintenant. Même Paul nous dit, rappelez-vous cela, considérez-vous comme mort au péché. Et le plus grand effet que ça a, c'est qu'on n'est plus esclave du péché. C'est pas vrai qu'on est condamné à constamment retomber dans ce même piège-là du péché, d'être jamais capable de s'en sortir, de ne jamais pouvoir progresser spirituellement, et même de s'enfoncer toujours davantage comme le reste de l'humanité. Ce n'est plus le cas. Si vraiment on appartient à Christ, le Saint-Esprit vient en nous, et on est libéré de cet esclavage du péché-là. Mais dès maintenant, bien sûr, c'est pas encore complété, là. Et on a un combat à faire, d'ailleurs on va le souligner aujourd'hui. Mais on est passé de l'esclavage du péché, pas à une liberté totale sans maître, comme certains voudraient croire, mais on a un nouveau maître, Jésus. On est des esclaves de Jésus, des serviteurs de Christ. Donc on a une nouvelle raison d'être. Et au chapitre 7, on a vu, ça fait 3 semaines de cela, parce qu'on avait marqué une petite pause pour la fête des mères et la fête des ministères. On a commencé à étudier le chapitre 7, les 6 premiers versets, où on voit qu'en plus d'avoir été libéré du péché, on a été libéré de la loi, ce qui est très cher au cœur des Juifs qui lisaient la lettre de Paul. Paul leur dit, on est libéré même de l'emprise de la loi qui nous gardait captifs du péché. Donc, c'était des paroles très fortes. Et à cause de cela, Paul a été persécuté dans les villes où il allait. On a vu ça quand on étudiait les Actes des apôtres. Partout où il allait, puis il enseignait cette bonne nouvelle-là, cette libération de la loi. La plupart du temps, il était mal reçu dans les synagogues et les Juifs voulaient sa peau. Et sa vie a été souvent mise en danger à cause de cela. Et on l'a accusé de toutes sortes de fausses accusations, entre autres de mépriser la loi, de dire que la loi était mauvaise. Il l'accusait de parler contre la loi, de dire que la loi était même synonyme de péché. Mais ce n'est pas vrai. Sauf que Paul va prendre la peine ici de se défendre et d'éclaircir sa position. Il dit qu'on est libéré de la loi, mais ça ne veut pas dire que la loi était mauvaise. Il consacre d'ailleurs le reste du chapitre 7, on va l'étudier ce matin. Je vous invite à tourner au chapitre 7, à partir du verset 7, dans Romains. Il consacre le reste du chapitre justement à démontrer que la loi est bonne, mais qu'elle produit un résultat mauvais. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes, non. Je ne sais pas comment c'est écrit dans d'autres traductions. Loin de là. Bon, c'est ça. Ça veut dire absolument pas. Je ne sais pas comment on dirait en québécois, là. Pantoute. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes, non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est comme mort. Et pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Mais ce qui est bon est-il devenu pour moi la mort? Certes, non. Mais le péché, afin de manifester en tant que péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que, par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je me déclare d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à notre Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Bon, on va d'abord se poser la question de quoi est-ce que Paul y parle ici. C'est pas évident, il existe plusieurs interprétations. C'est un des passages le plus débattu parmi les théologiens, encore aujourd'hui. Souvent, quand on prend un commentaire biblique, l'auteur va commencer par présenter quelques interprétations auxquelles il n'adhère pas, puis il va présenter sa préférée. Mais si vous lisez 10 commentaires, ça se peut que vous ayez 10 réponses différentes. C'est un passage qui est difficile. Mais on va commencer par se concentrer là-dessus. Je vais vous proposer mon interprétation préférée. Je jugerai si ça fait du sens. Ensuite, on va s'attarder aux deux sections de ce passage-là, parce que je crois que tout le passage parle encore de la loi. C'est ça le sujet. La loi qui a été donnée au peuple d'Israël par Moïse. Donc, il parle d'abord au verset 7 à 12 du moment où la loi est venue. Donc, son arrivée, qu'est-ce que ça a fait? Puis après, du verset 13 à 25, la deuxième section, de qu'est-ce que c'est que vivre sous la loi. Donc, de quelle situation est-ce que Paul est en train de parler ici? Et là où ça devient difficile un peu à interpréter, c'est parce qu'il parle au « je ». Il dit « je ». Est-ce qu'il parle de lui-même? Il parle de quelqu'un d'autre? Il parle de façon générale? Ce n'est pas facile, c'est une sorte de langage auquel on n'est pas très habitué aujourd'hui. Une forme de rhétorique qui existait à l'époque. On va voir 3 interprétations possibles. Il y en a plus, mais parmi les plus répandues. Une qui revient souvent, c'est que Paul parlerait de sa situation avant sa conversion. Quand il dit je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne peux pas faire le bien que je voudrais, ce que j'haïs, c'est ce que je fais. Donc, Paul serait en train de parler de la situation alors qu'il se trouvait encore un pharisien zélé avant qu'il se convertisse. Donc, ça fait du sens. Il y a beaucoup de bons arguments pour soutenir cette position-là. Il parle qu'il était malheureux. Donc, lorsqu'il dit « qui me libérera de ce corps de mort, malheureux que je suis », il parlerait de sa situation alors qu'il a pris conscience là, qu'il était incapable de changer et qu'il avait besoin d'être sauvé. Donc, peu de temps avant qu'il se convertisse. Donc, ce serait une sorte de témoignage de conversion de la part de Paul. Ça ne me semble pas être la meilleure interprétation. Parce qu'il mentionne au verset 9, « Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie en moi et je mourus. » Il semble parler d'une époque où il était sans loi. Mais c'est un peu étrange. S'il est vraiment en train de parler de son témoignage, Quand est-ce que Paul a été sans loi? Il dit qu'il a, dès son enfance, il a grandi à Jérusalem, il a été élevé au pied de Gamaliel, le plus réputé des pharisiens, il a été élevé dans la loi, et il s'est appliqué de tout cœur à suivre la loi. Donc, de dire qu'il a vécu une période sans loi, c'est un peu étrange, c'est vraiment son témoignage. Dans Acte 22, Paul témoigne qu'il a suivi exactement la loi, plein de zèle pour Dieu. Il témoigne aussi dans Philippiens 3:6 qu'il était irréprochable quant à la loi, quant au zèle, quant à la justice légale. Mais il continue en disant que maintenant, il considère tout ça comme des ordures, comme de la boue, là. Mais à l'époque, il considérait que c'était toute la vie, ça. Et il était zélé, il était de tout cœur dans cette loi. Et même, il se voyait juste. Il croyait qu'il était juste, et les gens le voyaient comme juste, comme zélé. C'est pas pour rien qu'on lui a même confié la mission d'aller capturer les chrétiens qui étaient à Damas. On peut être d'accord quand même que Paul, ici, s'il parle au juste, c'est quand même parce qu'il fait allusion à son expérience personnelle, mais je ne crois pas que c'est simplement une autobiographie. Surtout que dans la deuxième partie, il parle au présent. Mais il parle au présent vraiment comme quelqu'un qui est sous la défaite, là, qui est encore esclave. Donc, s'il voulait vraiment montrer sa conversion, la période où est-ce qu'il dit « j'étais prisonnier du péché, incapable de m'en sortir », il en parlerait au passé. Mais il en parle au présent. Donc, je ne pense pas que c'est une bonne interprétation. La deuxième, qui est très répandue, c'est que Paul serait en train de parler de la vie chrétienne, le combat que mène tout chrétien face au péché, lorsqu'il avoue qu'il tombe devant la tentation, qu'il succombe et qu'il désespère. Donc, Paul serait en train de parler du combat intérieur comme entre notre ancienne nature et notre nouvelle nature. Un peu comme si le chrétien avait une double personnalité qui se battent. L'une charnelle, prisonnière, esclave du péché, et l'autre spirituelle, libérée par Jésus. Là, ici, je ne veux pas offenser qui que ce soit, mais je ne pense pas non plus que c'est la bonne interprétation. On s'en sert souvent de ce passage-là. Vous avez sûrement déjà entendu, vous l'avez peut-être lu dans des livres aussi. On se sert de ce passage-là pour illustrer le combat intérieur que vit le chrétien, mais je ne pense pas que c'est de ça que Paul parle ici. Le combat que vit le chrétien, ça existe. Et Paul en parle dans Galates, par exemple. Ouais. On peut vivre par l'esprit, ou si on marche par la chair, là, on retombe. D'ailleurs, il va en parler un peu au chapitre 8 aussi. Mais je ne pense pas qu'ici, il parle de la situation générale de tout croyant dans son combat qu'il livre. D'ailleurs, Paul ne parle pas dans ses lettres que le chrétien a deux personnalités. Il parle qu'il y a un changement radical. D'ailleurs, le chapitre 7, ici, si vraiment Paul parlait que le chrétien a deux personnalités, là, ça serait comme une parenthèse qu'il fait, mais dans le contexte de Romains, si on lit le chapitre avant, 6 et le chapitre 8, il est en train de parler d'un changement radical de ceux qui appartiennent à Jésus. Par exemple, au chapitre 6, verset 6, il dit « Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, avec Christ, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, que nous soyons plus esclaves du péché. » Plus loin, au verset 22, toujours dans le chapitre 6, il dit « Maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Puis dans le chapitre suivant, au chapitre 8, versets 8 et 9, Paul va dire « Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. » On est d'accord. Mais pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il y a vraiment ceux qui n'ont pas l'Esprit, qui sont encore sous le règne de la chair et qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais il y a ceux qui ont reçu l'Esprit et qui ne sont plus sous l'emprise de la chair et qui appartiennent maintenant à Dieu. Donc, il y a vraiment un changement radical. Donc, il n'est pas question ici d'une double personnalité qui se bat, d'un petit diable sur l'épaule avec un petit ange, là, qui se bat, là. Je ne crois pas qu'il y ait ça dans la vie chrétienne. De toute façon, si Paul faisait une pause ici pour marquer à quel point le chrétien face au péché est dans la défaite, ça ne servirait pas bien son argumentation. Ce n'est pas ça que Paul est en train de dire, là. Donc, ça servirait à quoi que Paul, tout à coup, arrête pour avouer qu'il est complètement impuissant face au péché. Ça ne servirait pas son argumentation. Et de toute façon, ce n'est pas ce que le Nouveau Testament enseigne en général. C'est vrai qu'il y a un combat spirituel, il y a une lutte dans le cœur du chrétien. Et Et Paul va y revenir là-dessus. Et il en parle abondamment dans Galates aussi. Je vous invite à relire cet épître. Mais je ne crois pas que c'est de ça qu'il s'agit ici. Je pense, et je vous propose l'interprétation que Paul parle de la situation générale de l'homme qui est pécheur, et en parlant de l'humanité en général, mais en pointant en particulier sur la situation d'Israël qui a reçu la loi. Parce que Israël a reçu la loi, mais ce n'est pas dans une histoire parallèle à l'histoire du monde. Là. Ça fait partie de l'histoire du salut. Les hommes étaient pécheurs et Dieu est intervenu dans l'histoire de l'humanité pour donner sa loi à Israël, après avoir choisi Abraham. Donc, la loi donnée à Israël concerne tous les hommes. Donc ici, je pense que Paul, lorsqu'il parle au « je », oui, il parle de lui-même, mais en tant que membre du peuple d'Israël et en tant qu'être humain sur la terre. Donc, c'est vraiment, je pense, qu'il parle de l'histoire du salut. Le moment où la loi est arrivée et ensuite les siècles après où les hommes ont vécu sous la loi, principalement les Israélites qui ont vécu sous la loi de Dieu. Donc, s'il parle aux juifs, c'est pour s'identifier avec le peuple juif dans son histoire. Mais bien sûr, il peut faire allusion à son expérience aussi, là, parce qu'il est un juif parmi son peuple. C'est une manière de s'exprimer, de la rhétorique à l'époque. C'est un procédé pour argumenter qui est efficace. Parce que les autres aussi, quand ils lisent ça, même quand on lit à voix haute, puis on lit le mot « je », c'est comme, un peu comme si nous-mêmes on parlait. Donc, tous ceux qui allaient lire la lettre de Paul pouvaient comme se mettre dans ses souliers puis dire « Oh, est-ce que c'est mon cas à moi aussi? » Mais ça me fait penser, cette semaine, on lisait dans notre réunion du groupe de quartier un passage dans Ésaïe, où Ésaïe, le prophète, a une vision de la sainteté de Dieu. Puis c'est quoi sa réaction, vous vous en souvenez? Il a eu peur, il pensait mourir. Malheur, malheur à moi, dans Ésaïe 6, il dit « Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mais il savait qu'il n'était pas le seul, il n'était pas seulement un homme devant Dieu, il était un membre du peuple de Dieu devant Dieu. Il dit « Je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et Dieu envoie son ange avec un tison pour purifier les lèvres d'Ésaïe et il devient pur. Puis Dieu dit « J'ai expié ta faute, ton péché est pardonné. » Mais en faisant cela pour Ésaïe, c'était une illustration que c'est ce qui attendait son peuple un jour. Donc, Ésaïe parlait au « je », mais en même temps, il s'identifiait à son peuple. Et je pense que c'est ce que fait Paul ici. Paul est en train, dans ce passage-là, de continuer à argumenter pour démontrer que la loi, même si elle est très chère pour le juif, et pour ceux qui gravitaient autour des juifs, là, et même peut-être les nouveaux croyants païens qui pouvaient être attirés à suivre la loi dans l'Ancien Testament, Paul le rappelle, il argumente ici que la loi n'est pas la solution pour le péché. Et là, il frappe fort, là, jusqu'à dire que celui qui se confie dans la loi est malheureux, en détresse, sans espoir. D'ailleurs, je vous invite à relire les deux derniers versets du passage précédent. Donc, je ne sais pas si vous aviez fermé votre Bible, là, mais vous pouvez la rouvrir dans Romains 7. Donc, le passage d'aujourd'hui commence au verset 7, mais je vous invite à relire les versets 5 et 6. Romains 7, verset 5. « Lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. » C'est comme un résumé du reste du chapitre. Donc, quand on était sous l'emprise de la chair au passé, la loi utilisait le péché là, pour provoquer en nous toutes sortes de péchés. Elle agissait dans nos membres et nous faisait porter du fruit pour la mort. Donc, par le verset 5, il introduit ce qu'il va dire dans le reste du chapitre 7. Ensuite, le verset 6, je pense que c'est une annonce de ce qu'il va dire au chapitre 8 qu'on va étudier la semaine prochaine avec Greg. Maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Ça fait du sens? Donc, si on regarde premièrement les versets 7 à 12, Paul parle ici de la venue, l'arrivée de la loi dans l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque la loi est venue dans le monde? Et il commence par dire, la loi est-elle péché? Certes, non. Pourquoi est-ce que Paul commence par clarifier ce point-là? Parce qu'il vient de dire qu'on a été libéré, délivré du péché, du règne du péché, mais il dit aussi qu'on a été délivré de la loi. Donc les gens pourraient l'accuser. Ah, Paul, tu es en train de dire que loi égale péché? La loi, c'est le péché? Non, certainement pas. La loi est bonne, elle est sainte, elle est juste, comme il dit au verset 12. C'est un don de Dieu. Même si vous en doutez, je vous invite à relire le psaume 119, qui met la loi de Dieu sur un piédestal le plus élevé possible. C'est vraiment, la loi de Dieu, elle est revêtue de toute sa grandeur, sa majesté. Elle est parfaite, elle a les qualités de Dieu. Donc la loi est bonne, elle est simple, elle vient de Dieu. Mais malheureusement, c'est comme une arme. Même la Bible parle de la parole de Dieu comme étant une épée. Mais le péché, qui est comme le maître du monde des hommes qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, le péché utilise cette arme-là de la loi pour faire le mal. Il a détourné la bonne chose de Dieu. Donc le péché utilise la loi que Dieu avait donnée à Israël pour les faire tomber, les faire pécher davantage. Donc les hommes, avant que la loi arrive, les hommes n'étaient pas coupables. C'est ce que dit Paul. Avant d'avoir connu le péché, avant d'avoir connu la loi, mais le péché était comme mort. Et je vivais. Donc les hommes vivaient tranquilles, dans le fond, sans savoir à quel point Dieu est en colère contre eux. Oui, les hommes étaient pécheurs, mais ils n'étaient pas coupables d'avoir transgressé la loi de Dieu. Tant que la loi n'a pas été donnée, les hommes n'étaient pas coupables d'avoir transgressé cette loi. Ils étaient coupables d'une façon générale de ne pas honorer Dieu, de ne pas obéir à la conscience du bien et du mal que Dieu a mis dans notre conscience. Mais ils n'étaient pas coupables envers cette loi-là. La loi régnait déjà sur eux, la mort, mais ils n'étaient pas nécessairement conscients de cela. C'est ce que Paul a dit au chapitre 5. Avant, entre Adam, la venue de Adam et la venue de Moïse, où la loi a été donnée, il y a eu une période où il n'y avait pas de loi. Pourtant, les hommes mouraient quand même. Ils étaient quand même déclarés coupables devant Dieu, mais ils n'étaient pas coupables par rapport à cette loi-là. Mais Dieu a donné sa loi aux Juifs, et lorsqu'il l'a donnée, même si elle est très bonne, c'était une manière pour dire aux Juifs, voici comment vous allez vous comporter, vous serez saints, car moi je suis saint, et voici comment je vais vous comporter en tant que peuple saint de Dieu. J'ai mis mon nom sur vous, là, donc vous allez me faire honneur. Et malheureusement, lorsqu'ils ont lu tous les articles de la loi, qu'ils les ont entendus, ça a donné de nouvelles, multiples occasions de péché. C'est terrible, et même on le voit dans le récit d'Exode. Peu de temps après qu'ils aient reçu la loi, ils fabriquent un veau d'or, ils fêtent, ils se mettent à adorer d'autres dieux. Ils tombent dans les péchés. Et Paul ici donne l'exemple du commandement, « Tu ne convoiteras pas ». Au lieu de justement servir à nous avertir, « Oh, il ne faut pas convoiter parce que ça déplaît à Dieu », puisque c'est le péché qui règne dans le monde, ce commandement-là a été utilisé comme une arme pour pousser les hommes et les femmes à convoiter. Il a fait naître la tentation de convoiter. C'est sûr que la convoitise existait déjà. Les gens avaient toutes sortes de désirs mauvais. Et même, c'est assez évident que les hommes pouvaient même voir les effets néfastes de la convoitise. Si quelqu'un allait voler des biens d'un autre, c'est assez évident que celui qui se faisait voler ses biens souffrait de cela. Mais les gens ne savaient pas à quel point c'était une horreur aux yeux du Créateur. Lorsque Dieu a révélé sa loi, puis il a dit « Vous ne convoiterez pas », là, les hommes ont compris qu'en faisant cela, c'est une manière d'être rebelle au Créateur, d'être rebelle à Dieu. Et au lieu d'utiliser l'avertissement pour ne plus convoiter, les hommes ont multiplié encore davantage la convoitise. Par exemple, pourquoi est-ce que je rentrais dans le stationnement et j'ai remarqué qu'il y avait des graffitis sur le mur de notre bâtiment d'église? Pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes, peut-être des moins jeunes aussi, là, qui sont attirés à faire des graffitis sur des édifices? Pourquoi ils ne le font pas sur un beau tableau à la maison, dans le salon? Mais je crois en partie parce que c'est interdit. C'est ça le triple, là, de réussir à le faire sans se faire attraper, de réussir à défier l'autorité. Puis plus on est prêt à le défier, bien plus on peut être fier face aux autres. Mais il y a une attirance malsaine, là, et on doit tous l'avouer, là, qu'il y a une certaine attirance à faire quelque chose qui nous est interdit. Je suis sûr que si on met un bouton ici sur la table qui est écrit « N'appuyez pas sur ce bouton », ça ne sera pas long qu'il va être usé. Pourquoi est-ce que les drogues interdites, illicites, sont si attirantes? Justement parce qu'elles sont interdites. Pourquoi est-ce qu'un enfant qui a plein de jouets dans sa chambre,
il va être attiré à aller jouer après les trucs de papa ou de maman. Parce qu'il sait que c'est pas correct. Puis il le fait en le regardant, là. Mais c'est attirant de faire quelque chose qui nous est interdit. Mais de façon générale, les hommes, lorsqu'ils ont découvert toutes les choses que Dieu n'aimait pas, ont été tentés, et particulièrement le peuple d'Israël, a redoublé comme d'effort pour pécher contre Dieu. Donc, la loi qui est bonne a suscité le péché dans l'homme. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au chapitre 5, verset 20, « La loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. » C'est une occasion par la suite pour Dieu de montrer sa grâce. Ça a révélé vraiment le cœur tordu de l'homme et le besoin d'être sauvé par Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc, Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il a donné sa loi. Il savait très bien qu'elle allait être mal utilisée. Ça servait son plan, quand même. Et à cause de cette loi-là, les hommes ne meurent plus seulement parce que la condamnation est tombée sur nous lorsque Adam et Ève ont péché. On meurt, oui, à cause de cela, mais premièrement parce que nous-mêmes, on a enfreint la loi de Dieu. Donc, c'était une manière aussi de confirmer la culpabilité de tous les hommes. Maintenant, un bon juif pouvait penser, à tort, que parce qu'il connaissait la loi de Dieu, qu'il pouvait être reconnu juste, que la loi était suffisante. Mais ça fait plusieurs fois que Paul le dit, là, mais il insiste encore là-dessus. Connaître la loi de Dieu, ce n'est pas suffisant pour être justifié, pour vivre devant Dieu. Et là, à partir du verset 13, il s'attarde spécifiquement à qu'est-ce que ça veut dire d'être sous la loi. Il se met dans les souliers de quelqu'un qui vit sous la loi, qui connaît la loi de Dieu, qui sait qu'elle est bonne. En commençant par dire, si cette loi-là est une arme qui produit la mort, est-ce que ça veut dire que la loi est synonyme de mort? Loi de Dieu égale mort? Certes, non. Encore une fois, il le clarifie. Ce n'est pas la loi qui est mauvaise. La loi n'est pas la mort elle-même. La loi est une arme qui a été détournée, qui a été utilisée pour produire la mort. La loi, au contraire, elle est spirituelle, verset 14. Elle est bonne, verset 16. C'est une loi qui vient de Dieu, un don de Dieu, verset 22. C'est quoi le problème d'abord? Le problème, même si cette expression-là est pas utilisée ici directement, mais on l'utilise souvent, c'est la nature pécheresse. C'est le fait qu'on hérite de nos parents d'une nature pécheresse. Et ça se voit dès le jeune âge. Un enfant, là, dès son jeune âge, on commence à voir des signes de rébellion. Puis c'est inévitable qu'on devienne rebelle face à Dieu. C'est dans notre nature qui a été corrompu. C'était pas comme ça dans la version originale de l'être humain, là, 1.0. Mais maintenant, la nature de l'homme a été corrompue. C'est une nature qui est pécheresse. Et Paul, ici, la qualifie de charnel. Moi, je suis charnel. Et à cause de cela, personne ne peut être sauvé par la loi. Même si Dieu nous donne un mode de conduite, si vous faites cela, vous allez vivre. Personne n'est capable d'être sauvé par cette loi-là à cause de cet esprit tordu, cette nature pécheresse. Personne n'est jamais arrivé à obéir à la loi de Dieu. Donc ici, je le répète, je pense que lorsque Paul parle au « je », il se met dans les souliers de quelqu'un qui vit sous la loi. Donc ici, il s'identifie au peuple juif ou à tous ceux qui voudraient tenter d'être sauvés par la loi. Il dit au verset 15 que « vouloir pratiquer la loi sincèrement, le vouloir, avoir de la bonne résolution, ce n'est pas suffisant. » Ce qui va arriver, c'est que la nature pécheresse fait en sorte que ce qui est pratiqué, c'est ce qu'on ne veut pas. Tu vas avoir des bonnes intentions. Ce qui va arriver dans les faits, c'est que tu ne feras pas ce que tu aurais voulu. Parce que ça serait comme plaire à Dieu et la nature pécheresse est ennemie de Dieu. Au verset 16, il dit que même être convaincu que la loi est bonne n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui sont convaincus que la loi est bonne. Il y a des gens même qui vont consacrer leur vie à étudier l'Ancien Testament ou même toute la Bible. Ils vont l'étudier en théologie. Mais ils n'ont jamais mis leur foi en Jésus pour être sauvés. Et même s'ils sont convaincus que cette loi est bonne, ils vont même la vanter devant les autres. Ce n'est pas suffisant d'être convaincu qu'elle est bonne. Parce que ce qui règne sur eux, même s'ils disent vouloir même soutenir cette bonne cause-là qui est la Bible, ce qui règne sur eux, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas l'autorité de la parole de Dieu, c'est le péché. Et ça, c'est inévitable. Tout homme qui n'est pas régénéré, c'est le péché qui règne dans sa vie, qu'il le veuille ou non. Même, il va plus loin pour dire au verset 18 que cette nature pécheresse-là rend incapable d'obéir à la loi. Ça nous rend vraiment impuissants, incapables d'obéir à la loi. Même, verset 19 et 20 dit qu'elle prend le contrôle du corps, la nature pécheresse, puis elle nous force à faire même le contraire des bonnes résolutions, des bonnes intentions qu'on pourrait avoir. Et plus on s'y efforce, plus on va couler profondément. Même le Juif qui développerait une passion pour la loi de Dieu, même Paul témoigne qu'avant sa conversion, il était passionné par la loi. Il était zélé, irréprochable. Même celui qui se consacre sincèrement va quand même, malgré tout, obéir à sa nature pécheresse, au péché qui règne sur lui. Et si quelqu'un s'arrête, honnêtement, pour faire le constat de où il est dans sa vie et dans son désir de plaire à Dieu, et il va être désespéré, et il va finir par crier comme Paul l'exprime ici, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Donc, c'est vraiment la constatation honnête que tout homme doit faire s'il veut être sauvé. Tant qu'on s'illusionne qu'on peut faire des progrès, qu'on peut être sauvé en obéissant à la loi et qu'on cache sous le tapis nos fautes, on ne peut pas être sauvé. C'est lorsqu'on réalise qu'on est incapable d'obéir à la loi de Dieu que là, il y a un espoir d'être sauvé, qu'on se tourne vers Dieu. C'est lorsqu'on réalise qu'on est en train de se noyer là, qu'on peut attraper une bouée. Sinon, on peut penser qu'on est debout sur la terre ferme, on est en train de se noyer et on va mourir. En fait, c'est qui le seul là, qui a été rendu capable d'obéir à la loi entièrement? C'est Jésus. D'ailleurs, tout de suite après avoir crié ce cri de désespoir, là, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Il donne tout de suite la réponse. C'est par Jésus-Christ qu'on est délivré de ce corps de mort. C'est par Jésus-Christ qu'on est libéré de cette nature pécheresse qui nous tient esclaves. Et tout cela, c'est grâce à Dieu. Donc, c'est une exclamation qui est une louange à Dieu, une louange au Créateur. C'est à lui que revient toute la gloire pour le salut des hommes. C'est lui qui a livré son propre Fils en sacrifice pour nous sauver. C'est lui qui a payé le grand prix. Jésus a été le seul, son Fils qui l'a envoyé sur terre, à obéir à la loi. Comment ça se fait? Comment on peut expliquer cela? Parce que lui, il n'a pas hérité d'une nature pécheresse comme vous et moi. Il a été conçu directement par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Et il a grandi en sagesse. Et il a vécu toute sa vie en parfaite obéissance à Dieu. Donc, il est le seul, finalement, qui pouvait s'offrir en sacrifice comme un agneau parfait, sans tache, saint, et qui pouvait nous sauver. Si vous arrivez de mourir aujourd'hui, j'espère que non. Il y a quelques personnes qui sont décédées hier dans la tempête. Il y a des arbres qui sont tombés. Ça peut arriver n'importe quand. Là. Si vous décédez aujourd'hui, est-ce que vous savez où vous allez? Oui? Amen. Mais si je vous demande si vous pensez que vous allez au ciel avec Dieu, je vous demande pourquoi est-ce que Dieu vous laisserait entrer? Quelle raison là, vous pourriez donner? Comment vous pouvez nous expliquer que vous êtes certain d'aller au ciel? Si vous posez la question aux gens qui vous entourent, vous serez surpris, bien, peut-être pas dans cette assemblée, mais beaucoup de gens vont répondre « parce que je connais Dieu, je connais sa parole, je m'efforce de suivre ses commandements, je fais sa volonté, je suis une bonne personne. Ouais. » Si c'est la seule réponse que vous avez, vous êtes malheureux. Parce qu'en réalité, ça veut dire que vous êtes encore esclave de votre nature pécheresse, vous n'avez pas été libéré. Si votre seul appui sur lequel vous mettez votre confiance pour pouvoir aller dans la présence de Dieu pour l'éternité, c'est votre bonne marche fidèle à obéir à ses commandements, mais ce n'est qu'une illusion, parce que personne n'est capable d'obéir à la loi de Dieu parfaite. Peut-être que vous arrivez à un certain pourcentage que vous croyez satisfaisant, mais Jacques le rappelle dans chapitre 2, dans Jacques 2, 10, que même si on obéissait à toute la loi, il suffit d'enfreindre un seul commandement pour devenir coupable de toute la loi. Il n'y a pas des petits criminels et des grands criminels. Ceux qui ont enfreint un seul article de la loi de Dieu sont dans le camp des criminels. Ils ont un dossier criminel. Et on ne peut pas entrer au ciel avec un dossier criminel. Mais si vous pouvez dire « Je suis sauvé » et que vous l'êtes vraiment, c'est parce qu'un jour vous avez compris cela et que vous êtes tourné vers Jésus pour obtenir son pardon. Parce que vous avez été réconcilié avec Dieu. Vous avez un jour fait appel à Jésus et vous avez été pardonné. Vous avez reconnu votre état de pécheur Vous avez reconnu que vous êtes incapable d'obéir à Dieu et Dieu vous a délivré. Vous a délivré de cette emprise-là. Si ce n'est pas votre cas, mais qu'est-ce qui vous en empêche? Faites-le dès maintenant même. Demandez à Jésus pardon pour vos péchés. Si vous croyez qu'il est mort sur la croix pour vous, qu'il a payé la dette de vos péchés, demandez-lui qu'il soit votre Seigneur. Engagez-vous à le suivre. Donnez-lui votre vie. Vous serez pardonné. Romains 8, 1, même le prochain verset qu'on va lire la semaine prochaine, là, le prochain chapitre commence par ce verset-là. « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Et certains manuscrits ajoutent qu'ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, en Christ. Donc, on ne peut pas obéir, on ne peut pas être sauvé en essayant d'obéir à la volonté de Dieu. On va rester dans le malheur. Mais quand, par la foi, on est sauvé, le Saint-Esprit vient en nous et il commence déjà une transformation. Ce n'est pas seulement pour la vie après la mort. Déjà, il nous transforme et il nous rend capable d'obéir. On peut progresser et même, c'est même une promesse de la part de Dieu. Donc, c'est sûr qu'il va le faire. Dieu nous sanctifie, il nous transforme de plus en plus à l'image de Jésus. Et c'est vrai qu'on peut dire, je connais Jésus, je connais Dieu et je m'efforce d'obéir à ses commandements. Mais c'est parce que j'ai cru un jour en Jésus et que le Saint-Esprit est venu en moi et il me transforme. Et maintenant, si je suis les commandements de Dieu, ce n'est pas ce qui me sauve, mais c'est une preuve que je suis sauvé. En conclusion, bien sûr, c'est sûr qu'on n'arrive jamais à être à 100% obéissant à Dieu. Même si le Saint-Esprit est en nous, même s'il nous sanctifie et qu'on progresse de gloire en gloire, qu'on ressemble de plus en plus à Jésus, on n'atteint pas la perfection de notre vivant. Quand est-ce que ça va se compléter, ce travail-là? C'est quand Jésus va revenir et qu'enfin, il va nous libérer totalement. Donc, même si je crois que ce passage-là, de Romains 7, ne parle pas de la situation du chrétien, c'est quand même un bon rappel qu'il y a un combat. Là. Je crois quand même qu'il y a un combat spirituel à livrer. Je suis convaincu que le chrétien est tiraillé parfois, même si on appartient au nouveau règne de la justice, que c'est Jésus notre maître, on est attiré trop souvent vers l'ancien règne du péché. Et même, il peut nous arriver de se comporter comme si on appartenait encore à ce règne-là. Donc, on est quand même attiré par ces choses-là. Il faut être honnête. Et il y a une forme de combat qui est là. Et je vous invite à lire même l'Épître aux Galates qui en parle. Donc, ce passage-là, c'est un bon rappel que si ce n'était pas du Saint-Esprit qui est venu en nous, on serait incapable. On serait perdu comme les autres. Ce n'est pas parce qu'on connaît l'histoire de Jésus-Christ qu'on est transformé. C'est parce que le Saint-Esprit vient en nous, qu'il nous régénère. Donc, c'est vraiment grâce à Dieu. C'est un bon rappel que le Saint-Esprit est venu nous sauver et qu'il ne faut pas le lâcher. C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer et on lui donne une bouée. Il s'accroche à la bouée, et après il pense, ah ben finalement, je suis sain et sauf, je peux lâcher la bouée. Mais non, on reste accroché. On continue à marcher par l'Esprit. C'est ce qu'il va dire au prochain chapitre. Donc, c'est un bon rappel de l'aspect indispensable du Saint-Esprit en nous, de rester accroché au Seigneur. C'est un bon rappel aussi, finalement, que c'est Dieu qui mérite toute la louange. Et le fait qu'il nous a sauvés, qu'il nous a sortis de cet esclavage misérable du péché, qui nous transforme, qui nous fait grâce, c'est le plus grand sujet de louange pour Dieu. On devrait le louer pour cela à tous les jours, en toutes circonstances. Quand on est seul devant lui, quand on est réunis entre chrétiens, c'est notre premier sujet de louange, qui nous a libérés, qui nous a réconciliés, qui nous a régénérés. Et si nous occupons notre temps à louer le Seigneur pour cela et à le servir en reconnaissance pour son sacrifice, bien, la convoitise et toutes ces choses-là auront beaucoup moins d'emprise sur nous. Si on se tourne vers Dieu, même le diable fuira loin de nous. Donc, si nous sommes occupés à louer, à servir Dieu, on pourra résister à la tentation et même à la tentation de retourner sous la loi. Parce que c'est facile de retourner à un style de vie où on se met des règles à suivre et à ne pas suivre, là. Pour se croire juste par ces règles-là. Une vie légaliste, inévitablement, on va enfreindre ces lois-là même, et on va tomber dans l'hypocrisie. Et c'est pas une chose qui va nous rendre heureux. On va retomber dans l'échec, l'hypocrisie. Donc, que Dieu nous garde d'y retourner. Que Dieu nous rappelle constamment que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, qu'il nous a libérés, et que toute la puissance est en son Saint-Esprit. Amen. Je vais en profiter pour faire une petite annonce. Une manière très pratique de manifester sa reconnaissance au Seigneur, puis de le servir, puis d'être moins oisif, puis sous le danger que le lion vienne nous dévorer, c'est de le servir dans l'Église. Et pour ça, il y a des fiches, je ne sais pas si vous les avez remplies, mais il y en a encore sous le poste télévision, le téléviseur. OK, Ronnie en a dans les mains aussi à la sortie de la grande salle. Donc, on trouve ici tous les départements de l'Église. On peut servir, par exemple, dans ce qui concerne les missions, dans l'administration, dans le service des cultes, donc tout ce qui se passe pendant le culte le dimanche matin, ou pour les baptêmes, ou pour les groupes de quartier. Donc, si vous aimeriez recevoir un groupe de quartier à la maison en semaine, ou être animateur pour un groupe de quartier, il manque des animateurs, des responsables. Mais vous pouvez vous proposer à plusieurs endroits. Dans l'évangélisation aussi, cette bonne nouvelle là, que nous connaissons, là, il ne faut pas la garder pour nous. C'est un trésor que tous les hommes sur la terre ont besoin d'entendre. Vous pouvez vous impliquer dans toutes les activités d'évangélisation, dans toutes les rencontres de l'Église aussi, les différents groupes de jeunesse, collège et carrière, les célibataires. Ça n'existe pas encore, mais si vous avez à cœur de démarrer un groupe pour célibataires, ça serait une très bonne chose. Pour les couples aussi, présentement, il n'y en a pas. Pour les hommes, pour les femmes, pour les aînés, ça existe, ils sont fidèles. Groupe de prière, les sentinelles, les intercesseurs, pour les hommes, ou servir dans l'éducation chrétienne. Ça, c'était quand même un gros département pour servir auprès des enfants, les plus âgés aussi, à la pouponnière, ou même pour cet été, il y en aurait pour l'été, ou servir pour l'entraide, donc directement d'être affairé à prendre soin des frères et sœurs, prier pour eux, parfois même apporter des repas à ceux qui sont en convalescence, ou des cartes de souhait, aider pour les déménagements, vraiment une aide pratique. Mais prions pour compléter. Merci Seigneur Dieu pour ta parole qui nous a un jour sauvés. On a cru en ce que tu nous as annoncé. Nous avons cru dans ta promesse que si nous mettons notre confiance en ton Fils, nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle. Rappelle-nous cette belle assurance-là que nous avons. Et donne-nous de porter ce témoignage loin, jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les nations. Et même, tu as rassemblé beaucoup de nations ici à Montréal. Donne-nous d'avoir accès à tous ces groupes ethniques, de pouvoir toucher le cœur aussi des Québécois de souche qui ont abandonné la foi en rejetant l'Église catholique. Donne-nous d'être des témoins, d'avoir la joie de voir beaucoup d'hommes et de femmes se tourner vers toi. Et préserve-nous du danger de retourner sous la loi. Fais-nous marcher par l'Esprit en comptant uniquement sur ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.